Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, pourquoi les négociations qui devaient aboutir à une trêve à Gaza n'ont-elles rien donné ? Sous l'égide de médiateurs internationaux, Qataris, Égyptiens, Américains, Israël et le Hamas ne sont pas parvenus à un accord de trêve, sans même parler de cessez-le-feu, avant le mois de Ramadan. Et les premières victimes de cet échec sont les 2 millions d'habitants de la bande de Gaza, menacés par la famine selon les Nations Unies. Alors comment expliquer cet échec des négociations face à une telle situation ? Peut-on encore attendre quelque chose de la voie diplomatique ? Pour répondre à ces questions, je reçois aujourd'hui Benjamin Barthes, chef adjoint du service international du Monde. Bonjour Benjamin.
Bonjour Jean-Guillaume.
Alors Benjamin, on va commencer par ces négociations pour une trêve qui ont échoué donc à aboutir avant le mois de Ramadan. Est-ce que tu peux déjà nous raconter comment elles se sont passées et qui elles rassemblaient ?
Les négociations, vues d'un arrêt des combats à Gaza, c'est un peu, on pourrait dire, une partie de billard à quatre bandes. Quatre bandes parce qu'il y a quatre acteurs principaux. D'une part, David Barnea, qui est le chef du Mossad, l'agence de renseignement extérieur israélienne. William Burns, qui est le chef de la CIA, côté américain. Mohamed Abdelrahman Thani, qui est le premier ministre et le chef de la diplomatie qatari. Et puis la quatrième et dernière personne qui a un rôle à jouer dans ces négociations, c'est Abbas Kamel, qui est le chef des renseignements égyptiens. Donc c'est vraiment un jeu à quatre qui se déroule de manière un peu tournante dans trois capitales principales, le Caire, Doha au Qatar et puis Paris, parce qu'on se rappelle qu'il y a quelques semaines, il y a eu également des consultations à Paris.
Et alors, quelles sont les positions qui s'affrontaient dans ce jeu de négociation ?
Ben écoutez, en fait, depuis le début, en dépit des messages des uns et des autres qui essaient un peu de tirer la couverture à eux et de faire croire que ça avance, en fait, depuis le début de ces négociations, les parties prenantes ne sont pas d'accord sur la nature même de l'accord qu'elles sont en train de négocier. Et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire que on a eu beaucoup de spin ces derniers temps qui laissaient croire que ça avançait, qu'on n'était pas loin d'un accord. Mais en fait, quand on interroge les gens proches du dossier, ce qu'ils disent, c'est que il y a principalement un désaccord de fond sur la nature de l'accord. C'est-à-dire que les Israéliens demandent un simple accord de trêve, voire même une simple pause, qui leur permettrait, quand ils le jugeraient bon, de reprendre les combats, notamment pour, comme ils disent, achever la guerre en attaquant la ville de Rafah, le cul-de-sac de la bande de Gaza, qui est la dernière grande ville qui n'a pas encore été investie par l'armée israélienne. Et puis de l'autre côté, le Hamas demande un véritable accord de cessez-le-feu, c'est-à-dire un accord qui mette un terme à la guerre et qui également mette un terme à l'occupation de la bande de Gaza, la réoccupation de la bande de Gaza par les forces israéliennes. Donc il demande l'arrêt des combats définitifs et puis l'évacuation de la bande de Gaza. Et puis, dernière demande essentielle du Hamas, c'est la possibilité que les convois d'aide humanitaire, qui vous le savez, rentrent au compte-gouttes dans la bande de Gaza, puissent aller jusqu'au nord de la bande de Gaza. Pourquoi cette demande ? Parce que les Palestiniens, le Hamas le premier, redoutent que les Israéliens ne transforment le nord de la bande de Gaza en une zone tampon dans laquelle les Palestiniens ne pourraient plus véritablement remettre les pieds.
Donc si je te suis bien, un échange entre otages et prisonniers, ça pouvait faire consensus, mais la toile de fond de cet accord, c'est-à-dire d'une part une trêve, d'autre part un cessez-le-feu intégral, c'est ça qui a empêché les parties de se mettre d'accord.
Voilà, exactement. C'est véritablement, la question c'est de savoir est-ce qu'on est là pour solder définitivement cet épisode de guerre à Gaza, pour y mettre un terme, ou est-ce qu'on est encore dans une espèce de gestion de la guerre ? Est-ce que c'est la clôture de la guerre ou on continue à gérer cette guerre, à essayer d'atténuer ses effets secondaires. Et puis alors, c'est vrai qu'il y avait, en dépit de ce désaccord sur la nature de fond de l'accord en discussion, il y avait un schéma, grosso modo, qui était en train d'émerger. C'est vrai que le principe des échanges de prisonniers, les otages israéliens d'un côté contre des prisonniers palestiniens en Israël de l'autre, ce principe-là recueillait une forme d'assentiment des deux côtés. Il y avait un espèce de schéma directeur qui s'était mis en place avec trois phases de 45 jours qui auraient mené à l'élargissement, à la libération progressive de l'ensemble des otages israéliens, en commençant d'abord par les civils, les personnes âgées, les malades, les femmes, puis ensuite les réservistes, et en finissant, in fine, par les soldats d'active. Donc ça, c'était cette espèce d'échelonnement sur 3 fois 45 jours. Mais l'enrobage de ce séquencement, c'est-à-dire est-ce qu'on négocie uniquement un cessez-le-feu ou est-ce qu'on négocie uniquement une pause dans les combats, tout cela, ça continue à ce jour à faire problème.
Mais alors, pourquoi est-ce que Benjamin Netanyahou ne veut pas aujourd'hui justement solder cette guerre? On a des chiffres assez alarmants. 80% de la bande de Gaza à ce stade était détruite. Les capacités balistiques du Hamas, elles sont largement entamées. Qu'est-ce qu'attend le Premier ministre israélien pour déclarer victoire?
Benjamin Netanyahou l'a dit encore très récemment, hein, tous ceux qui demandent à ce que l'armée israélienne ne rentre pas dans la ville de Rafah, cette demande équivaut à ce que l'armée israélienne accepte de perdre la guerre. Hein. Dans l'esprit israélien, le travail n'est pas terminé, entre guillemets. Ils ont fait une espèce de décompte un peu approximatif. Hein. Ils estimaient que le Hamas disposait d'une trentaine de bataillons dans la bande de Gaza. Leur décompte arrive à l'idée qu'une vingtaine de ces bataillons auraient été mis hors d'état de nuire. Donc, grosso modo, il resterait un tiers des forces du Hamas qui seraient encore en état de combattre. Donc, du point de vue israélien, quand on ramène ce constat, deux objectifs principaux de l'armée israélienne lorsque l'armée s'est lancée dans cette guerre. D'une part, la mise hors d'état de nuire intégrale du Hamas, tant d'un point de vue politique que militaire. Et puis, de l'autre côté, la libération des otages. Ben, ces deux objectifs n'ont pas été remplis, pas du tout. Donc, arrêter la guerre à ce moment-là, pour Netanyahou, ce serait un aveu de défaite. Et il faut bien comprendre que la seule façon pour Benjamin Netanyahou de sauver sa carrière politique, parce qu'il sait qu'à l'issue de la guerre, ce qui l'attend, c'est une commission d'enquête sur le fiasco intégral du 7 octobre. La seule façon d'éviter d'être poussé à la retraite et d'être poussé hors du jeu politique, c'est de sortir de cette guerre avec l'image de la victoire.
Et ce serait quoi, une image de la victoire?
Bah, l'image de la victoire, ça pourrait être soit l'image du cadavre de Yahya Sinwar, le chef politique du Hamas dans la bande de Gaza, l'image du cadavre de Mohamed Deif, qui est son homologue pour la branche militaire du Hamas, ou alors une image de ces deux hommes en train de se rendre, et puis on a beaucoup vu ces derniers temps dans les images que sont propagées sur les réseaux sociaux par les soldats israéliens, on a beaucoup vu ces Palestiniens obligés de se déshabiller, de se mettre en caleçon dans les rues de Gaza, pour s'assurer qu'ils ne portent pas d'explosifs sur eux. C'est évidemment une forme d'humiliation terrible pour les Palestiniens. Et si Netanyahou arrivait à obtenir cette photo de Yahya Sinwar en caleçon dans les rues de Gaza, ce serait pour le Premier ministre peut-être pas une garantie de poursuite de sa vie politique, mais il pourrait vendre ça à l'opinion publique israélienne en disant « Regardez, la guerre a été dure, la guerre a été longue, mais finalement, on est arrivé, au bout du compte, on a rempli notre contrat ».
Donc du côté israélien, si je te suis, on est dans un schéma militaire jusqu'au boutiste, on n'apporte pas de crédit à une éventuelle solution diplomatique.
Écoute, Jean-Guillaume, en fait, ce que disent les gens qui sont proches des négociateurs, c'est que le contact passe plutôt bien entre le chef du Mossad, David Barnea, et puis ses interlocuteurs arabes, égyptiens, qataris, et puis évidemment aussi avec William Burns, le chef de la CIA. Le problème, c'est quand David Barnea revient à Tel Aviv. C'est-à-dire qu'il y a chez Barnea et chez les négociateurs israéliens, ceux qui sont autour de la table des négociations, il y a cette volonté d'arriver à un accord, mais que cet accord, d'accord, il est rendu très très compliqué, il est entravé par les considérations politiques de Benjamin Netanyahou qui a besoin, comme je le disais, de cette image de victoire, qui a besoin de sortir par le haut de la guerre, mais véritablement par le haut, sans le moindre bémol, pour sauver sa carrière politique. Et alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a cette idée chez les Israéliens qui est de donner un primat aux militaires en permanence. Cette croyance dans l'idée que ce qui ne marche pas par la force marchera par davantage de force. Et tout ça, c'est l'histoire des 10 dernières années à Gaza. Hein. Une première guerre en 2008, une deuxième en 2012, une troisième en 2014, une quatrième en 2021, une cinquième aujourd'hui, ça n'en finit pas. Alors, il y a évidemment des responsabilités côté Hamas, dans le Hamas qui lui aussi a ce dogme de la lutte armée auquel il ne veut pas renoncer. Mais côté israélien, il y a comme ça en miroir aussi une volonté en permanence d'instaurer un rapport de force qui vise à écraser l'interlocuteur, parce que c'est la seule façon pour Israël, d'un point de vue israélien, c'est la seule façon de garantir la sécurité de l'État.
Benjamin, ça c'est pour Israël, mais si on se projette de l'autre côté, à quoi ressemblerait une victoire pour le Hamas ?
En fait, tu sais, Jean-Guillaume, une organisation non étatique, quand elle est confrontée à un acteur étatique, et notamment une armée surpuissante comme l'est l'armée israélienne, le plancher, le seuil de la victoire, il est très bas. Pour le Hamas, il suffit grosso modo de survivre à l'assaut israélien, d'être en mesure le lendemain de la guerre, le jour où les combats cesseront, d'être en mesure de pouvoir ressortir des tunnels et d'organiser une parade de victoire pour crier la victoire. Alors évidemment, tout cela sera très politique, tout cela sera du domaine de la propagande, parce que pour les habitants de la bande de Gaza qui ont subi des mois et des mois de guerre, qui ont coûté des dizaines de milliers de morts, des dizaines de milliers de blessés, qui ont vu la bande de Gaza être peu ou prou rasée, anéantie, pour les Gazaouis, ces communiqués de victoire, ces cris de victoire du Hamas auront un goût extrêmement amer, pour ne pas dire complètement douteux.
Benjamin, j'aimerais qu'on parle d'un autre acteur dans ces négociations, les Américains, parce que face à une situation humanitaire de plus en plus alarmante, le risque de famine, ces images aussi terribles de Palestiniens se ruant vers un convoi de nourriture qui se sont fait tirer dessus par l'armée israélienne, les Américains semblent infléchir leur position et Joe Biden a déclaré, je cite, que Netanyahou fait plus de mal que de bien à Israël. Netanyahou lui répond en retour: s'il entendait par là que je mène une politique personnelle contre le souhait de la majorité des Israéliens et que je vais contre les intérêts d'Israël, alors il a tort sur les deux points. Est-ce que les États-Unis ont aujourd'hui encore les moyens de faire pression sur Israël ?
Évidemment, les États-Unis ont les moyens, ont plus que les moyens de faire pression sur Israël. C'est le premier fournisseur d'armes au monde d'Israël. C'est un partenaire économique majeur. C'est un partenaire stratégique majeur. Donc, il suffirait que l'administration américaine annonce, par exemple, qu'elle ne soutiendra plus Israël au Conseil de sécurité des Nations Unies, qu'elle commencerait à réduire ses livraisons d'armes pour obliger le gouvernement israélien à revoir sa tactique, sinon même sa stratégie. Donc, les États-Unis ont les moyens de peser sur Israël. On l'a vu même dans l'histoire. Il y a plusieurs moments, notamment, par exemple, au début des négociations de Madrid en 1991, les États-Unis, James Baker, à l'époque, qui était le secrétaire d'État américain, avait fait pression sur Itzhak Shamir, le premier ministre israélien de l'époque, pour l'obliger à venir aux négociations de Madrid, ce que Israël, à l'époque, ne voulait pas faire. Et comment il avait fait pression? Il leur avait dit, écoutez, c'est très simple. Si vous ne venez pas à Madrid, nous ne fournirons pas les garanties bancaires nécessaires à l'obtention d'un prêt pour aider à l'assimilation, à l'intégration de tous les juifs soviétiques qui affluaient à ce moment-là en Israël. Donc, les États-Unis, évidemment, ont les moyens.
Mais pourquoi Netanyahou, il ne semble pas faire beaucoup de cas des propos de Joe Biden ces derniers jours.
Voilà, alors pourquoi on a d'un côté l'impression d'une dissociation entre les paroles de Biden d'un côté et puis les actes de Biden de l'autre. Il y a quelque chose de terriblement schizophrénique qui peut s'expliquer par les calculs de la Maison-Blanche. D'un côté, la nécessité de tenir à distance Donald Trump, son futur rival très probablement dans la présidentielle du mois de novembre. Tenir à distance Donald Trump qui est évidemment un soutien intégral et inconditionnel de l'État d'Israël. Et puis, de l'autre côté, essayer de se gagner un petit peu les faveurs de la gauche, du Parti démocrate, qui, de plus en plus, notamment chez les jeunes, s'éloigne de la position traditionnelle de soutien à Israël. Donc, Joe Biden tente un grand écart. On verra si ce sera payant au mois de novembre.
Benjamin, pour conclure cet épisode, on a l'impression de ne pas voir d'issue à ce conflit, à cette phase du conflit actuel en tout cas. Et face à cette situation inextricable, beaucoup d'acteurs se remettent à parler d'une solution à deux États, notamment côté américain ou français. Alors, est-ce que les événements actuels ne remettent pas sur la table la nécessité de cette voie ?
Écoutez, évidemment, la solution à deux États n'a jamais été aussi urgente. Le problème, c'est que la solution à deux États était tellement abandonnée, tellement négligée ces dernières années par les États-Unis, les premiers qui n'en parlaient quasiment plus, par la France également. L'élément de langage, solution à deux États, la critique de la colonisation était quelque chose qui était de moins en moins présent dans le discours, dans la rhétorique gouvernementale française et américaine. Donc aujourd'hui, on assiste à cette espèce de miracle rhétorique, une résurrection lexicale en tout cas de la solution à deux États. Le problème, c'est que tout cela, comme je viens de le dire, n'est que rhétorique et que l'acteur, le seul acteur qui est en mesure de façonner le jour d'après, pour l'instant, c'est l'État israélien. Et cet État, cet exécutif israélien, a dit de manière extrêmement claire, extrêmement explicite, par la voix de Benjamin Netanyahou, mais également par la voix d'autres ministres, moins à droite que Netanyahou, qu'il ne voulait pas entendre parler de la création d'un État palestinien. Donc, autrement dit, on assistera peut-être à quelque chose de l'ordre d'un processus, il y aura peut-être des conférences, etc. Mais le risque est très très grand que l'on retombe dans les ornières du processus d'Oslo, c'est-à-dire que ce soit un processus pour le processus, un processus de paix, mais sans paix.
Merci Benjamin.
Avec plaisir Jean-Guillaume, merci à toi.
Cet épisode a été produit avec Margot Lanuzel et réalisé par Amandine Robillard. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez retrouver les articles de nos éditorialistes, de nos reporters sur le conflit en cours à Gaza, dans la rubrique internationale sur notre site. Et avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez désormais nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. On débarque sur Apple, Deezer, Amazon, bref, votre application préférée. Et si vous nous laissez quelques étoiles ou un petit commentaire, cela aidera à faire découvrir l'heure du monde à tous ces nouveaux auditeurs et auditrices. Merci beaucoup et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.